pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure au fond de l'eau, salut Nanette.
Salut Tiffany.
Il y aura Pierre-Antoine et Quentin qui nous rejoindront ensuite dans l'ordre donc billet d'humeur, géopolitique et politique. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. On est mardi et on retrouve le torpillage en règle de Nanette.
Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et pourtant l'info insolite que je m'apprête à vous offrir est loin d'être une blague. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. Nous voici dans l'un des pays les moins drôles à cette époque, l'Ukraine. À son menu du mois, manifestations, répressions, fusillades et blessés. Pourtant, un Ukrainien complètement sorti du lot ces jours-ci, c'est le candidat officiel du Parti ukrainien de l'Internet, ou UIP. Seule chose qu'on peut lui reprocher, il s'appelle Dark Vador, et c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il n'a pas fait les choses à moitié, il a le costume de l'original de Star Wars, même s'il va falloir investir dans autre chose que des sabres en plastique pour combattre. Mais surtout, il a pu trouver toute une équipe dans le même délire que lui. Vous me direz, des fanas de Star Wars, il y en a partout. Ce sont les Stormtroopers, la troupe d'élite de son empire galactique. En tout cas, avec tout ça, le pays risque de voler haut, mais alors que pour les paradis fiscaux, ça va être une vraie galère. C'est beaucoup moins facile à récupérer l'argent dans l'espace intergalactique. L'UIP est un parti sérieux. Il a été enregistré en 2010 avec comme chef de parti, et je mets les guillemets, l'empereur Dimitri Golubov. Il conteste le régime ukrainien actuel pro-russe. Le parti a indiqué avoir déjà déboursé les 2 500 000 hryvnias, soit 165 000 euros. C'est l'argent requis pour enregistrer son candidat à la présidentielle. Samedi donc à Kiev, conférence de presse est arrivée triomphale du personnage sur la musique de la bande originale de Star Wars, accompagné bien sûr de tous les acolytes de l'espace. Il s'est officiellement déclaré candidat à la présidentielle, ça paraît dément, mais vous me direz, en France, on a bien eu Coluche. Vador déclare « Moi seul peux faire un empire de notre République, lui redonner sa gloire passée, lui rendre ses territoires perdus et sa fierté. » Et ce n'est pas sa première victoire. En novembre 2013, il s'est tout simplement fait déclarer maire d'Odessa. Le programme du parti ? Créer un gouvernement électronique en Ukraine, une transition vers les médias numériques, inciter au partage de données, offrir des cours d'informatique gratuits à tous les citoyens et les initier dès l'école primaire. L'Ukraine a déjà 46 candidats pour ses présidentielles. Les Ukrainiens ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu le choix. On se souvient du rebelle Vitali Klitschko, icône de la boxe et chef de file de la contestation pro-européenne en Ukraine. Il a annoncé qu'il renonçait à se présenter. C'est bête, il y a de quoi comprendre pourquoi Poutine ne prend pas du tout au sérieux les révolutionnaires ukrainiens. Mais pour l'instant, une troisième grande personnalité se démarque, l'homme d'affaires et député Pero Porochenko, 48 ans, homme politique certes, mais surtout milliardaire. Sa fortune est estimée par le magazine Forbes à 1 milliard 600 000 dollars. Ce type-là est presque tout aussi louche. Il a promis de créer une nouvelle armée, moderne et efficace, qui défendra la souveraineté et l'intégrité de l'État. Son atout, c'est le seul oligarque à avoir soutenu le mouvement Maïdan, un mouvement contestataire vis-à-vis de la Russie et qui porte tous les pro-européens ukrainiens. Depuis les débuts, en novembre dernier, il jouit d'une grande popularité en tête des sondages. Le comble dans l'histoire, c'est bien que Dark Vador qui se présentera, une faille dans la loi ukrainienne, n'oblige pas les candidats à révéler leur véritable identité.
Merci Nanette pour cette amuse-gueule. Voilà venue l'heure d'entrer dans le scaphandrier. Et ce soir, nous allons parler de la nouvelle plateforme de production musicale régionale Indé Pays de la Loire. Une plateforme lancée par la FEPAL, la Fédération des éditeurs et producteurs phonographiques en Pays de la Loire, le 9 avril, c'est-à-dire mercredi prochain. Bonjour Sébastien Michacle.
Bonjour.
J'ai pas écorché votre nom de famille.
Non, ça va.
Vous êtes le président de la FEPAL. La FEPAL a donc pour but d'aider les acteurs de la filière du disque à se rassembler, se structurer pour travailler de manière collective et collaborative, en prenant parallèlement l'économie sociale et solidaire, comme on le verra tout à l'heure.
C'est ça.
Et en face de vous, quatre hommes. Le studio est bondé. Bonjour, Mr. M.
Bonjour. Bonjour.
Salut.
Vous faites partie de la FEPAL. Vous êtes un groupe angevin. On ne sait pas si les auditeurs vous connaissent. On peut vous présenter en quelques mots. Thibaut, peut-être le chanteur.
Oui. Donc du coup, Mr. N, c'est un projet qui a vu le jour début 2012, qui est issu d'histoires que j'écrivais à l'origine. C'est un univers musical rock qui se rapproche assez de groupes comme Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys ou Billy Talent. Depuis début 2012, on a fait, là ce sera notre 70e concert justement la semaine prochaine à l'occasion
du lancement de cette plateforme. Au Jokers.
Pour le Joker Pub, quoi. Puis voilà, on a joué pas dans toute la France mais dans le Grand Ouest, et là justement on s'apprête à faire une tournée dans le Sud du 25 avril au 4 mai.
Voilà, Mr. N qui jouera donc le soir du lancement de cette plateforme le mercredi 9 avril au Jokers Pub à 18h30 à côté de Thibaut, Kevin, Arthur et Clément.
Le disque français se porte-t-il bien ?
Et cela malgré les nombreux bruits qui ont circulé concernant une crise de cette industrie. Pour le chiffre d'affaires de 1967, on a même parlé de 30, voire même 40% de baisse par rapport à 1966.
Une nouvelle formule de disque vient de faire son apparition sur le marché français.
Nous pensons qu'il était nécessaire de faire, entre le 45 tours EP et l'album 33 tours, un format intermédiaire. C'est pour ça que nous avons fait le disque de poche avec 6 titres. C'est donc sous ce format-là la moitié d'un album 33 tours.
Un document de l'INA qui date de 1967, où on parlait déjà de la crise de l'industrie musicale, de la crise du disque. Finalement, Sébastien Michac, c'est pas un peu une histoire sans fin, cette histoire de crise de l'industrie musicale?
Ah, c'est assez étrange ce petit extrait, parce que c'est vrai que bon, ça a quand même bien changé après 67. C'est quand même plus récent. Il y a eu une grosse crise du disque avec l'avènement du numérique. Il y a eu vraiment un gros changement. Ça a été amplifié aussi par le fait que les majors veuillent directement abandonner le support physique, notamment le CD, ce qui a conduit ensuite à des gros réductions de place dans les magasins. Les Fnac vendent beaucoup moins de disques qu'avant. Elles ont rétréci les rayons de disques pour vendre des écrans, du support. Des baladeurs MP3, tout ce qui est support numérique. Et effectivement, c'est à partir de là où il y a vraiment eu une différence assez flagrante sur les volumes de vente. Donc ça a touché autant les majors que les indépendants. Après, les majors, du moment où il y avait tellement de volume qu'ils avaient toujours assez pour vivre. Par contre, les indépendants, ça a été beaucoup, beaucoup plus dur, parce que, étant donné qu'on n'a pas la même force de frappe en termes de marketing, on a les références, moins les projets étaient connus, plus les artistes, plus les références, je veux dire, sont sortis vite des rayons. Et donc, ça a été un goulot d'étranglement. On a continué de produire des disques, on a continué de soutenir des jeunes artistes pour leur premier album, mais par contre, derrière, il n'y avait plus les réseaux de distribution, pour vendre les disques, pour faire connaître ces disques et écouler les stocks.
Pour vous, l'origine de ce mal, c'est la dématérialisation de la musique, en fait ?
Je ne sais pas dire vraiment l'origine de ce mal, mais c'est vrai qu'avec avec l'avènement du numérique, avec l'accès à Internet, avec forcément l'amélioration en fait, de la qualité d'Internet et la DSL, les tuyaux sont devenus de plus en plus gros, ça a été de plus en plus facile, de plus en plus rapide de télécharger des fichiers audio, et ça a contribué forcément à réduire l'acte d'achat de l'autre côté.
Je me tourne vers Mr. N, je ne sais pas qui va prendre la parole. Vous avez pensé quand même à poser votre musique, vous avez pensé directement à la poser sur Internet, ou vous avez vous passez par le circuit matériel quand même? Vous continuez à insister vers ce...
En fait, on a commencé plutôt dans le numérique, parce que c'est aussi plus facile, c'est gratuit souvent. On poste nos morceaux sur Internet et on peut les vendre facilement au public. Après, quand on a eu un peu plus d'argent, nous, on a préféré avoir un support physique toujours. Sur chacun de nos EP, on en a sorti 3.
Ça reste
toujours
important quand même.
Pour nous, oui. Après, c'est vrai que c'est pas vendu. Je sais pas combien on en a vendu en numérique et combien on en a vendu en physique. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus en physique pour l'instant. Mais voilà, les prix en numérique sont aussi un peu moins chers qu'en physique souvent. Et du coup, ça incite les gens aussi. Maintenant, on a tous des MP3. On n'écoute pas forcément des CD, voilà. Donc,
Après, ce qui est drôle, je trouve, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que je trouve que les gens, au concert, quand il y a des CD qu'ils ont bien aimé, ils vont prendre le CD. Par contre, si jamais ils n'ont pas eu l'occasion d'acheter le CD, qu'ils vont tomber sur notre Bandcamp ou sur notre site, ils vont écouter, mais par contre, ils ne vont pas forcément payer. Et je sais pas, moi, je trouve qu'il y a une frontière, en fait, entre le physique et le virtuel. Je pense que les gens, ils ont encore du mal à payer pour du virtuel, en tout cas pour notre style de musique. Alors, après, je ne sais pas si c'est lié au style de musique qu'on fait, mais les gens qui nous apprécient, généralement, achètent les CD. Après, c'est sûr que les ventes se comptent pas en dizaines de milliers, on n'est pas signé par une majeure. Mais bon, nous, on a toujours eu cette proximité-là avec le physique, et on continuera d'en faire aussi longtemps que Mister N'existera, en tout cas.
Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que pour se rémunérer, on peut pas encore compter sur le numérique, quoi.
Bah, en tout cas, pour nous, non. Après, comme je disais, je pense que c'est assez inhérent au style de musique quand même, puisque Il y a pas mal de groupes d'artistes qui passent par exemple notamment à la radio qui sont assez axés sur la pop, l'électropop, donc ce qui tourne bien en ce moment. Et ça, c'est plus le genre de clip et de musique susceptible de plaire au grand public, je pense. Nous, après, le souci entre guillemets qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur un créneau qui est forcément ultra grand public. Donc du coup, ça vient peut-être de là, entre autres. Mais effectivement, je pense que ce que tu disais, c'est tout à fait vrai.
Nous, ce qu'on voit en fait, c'est que effectivement, globalement, il y a les ventes de numérique augmentent, mais ça ne fait pas une symétrie par rapport à la courbe de chute des ventes de physique. Donc effectivement, comme disait Thibaut, le spectateur qui va venir voir un concert, qui va aimer le groupe, il va faire un acte d'achat, et ça sera vraiment un acte un peu militant, parce que voilà, il va soutenir le groupe, et puis il va avoir effectivement un objet. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore attachés à cet objet physique, parce qu'il y a une pochette, parce que... Alors après... Ça dépend des artistes, ça dépend des labels. On essaye, moi je connais beaucoup de labels indépendants qui essayent de faire des objets qui sont un peu plus beaux. Donc c'est plus un boîtier cristal avec une petite pochette, c'est plus du digipack, du carton avec peut-être plusieurs volets, du vinyle avec pareil des beaux vinyles de couleur ou transparents. Des box 3 vinyles, des fois des produits assez sympas qui sont effectivement après peut-être un peu plus chers aussi à la vente, mais qui sont un peu plus uniques, un peu plus glamour.
Sébastien Luchacle, combien est payé un artiste par vente de disques?
Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend du prix de vente du CD, ça dépend
le pourcentage.
Un pourcentage, en fait, ça va dépendre du contrat qu'a l'artiste avec son label. Grosso modo, sur des labels indépendants, on va dire qu'il y a 20% de recettes qui retournent à l'artiste. Sur une major, on va plus tourner entre 3 et 7%.
Et le reste?
Le reste, c'est pour les coûts de production du label. Donc, parce que faut savoir que faire un album dans les règles, ça coûte cher. Il y a des conventions collectives qui sont imposées et qui sont très difficiles, très lourdes pour les petites structures que nous sommes à appliquer. Donc, pour faire un album, il faut payer les musiciens en studio, il faut payer la location du studio, le mastering, un régisseur son pour l'enregistrement, éventuellement le mixage, des fois c'est pas la même personne. Le mastering, c'est encore une autre compétence. Ensuite, pour la fabrication du support, évidemment, ça a un coût. Et puis, à faire un CD, c'est bien, sauf que derrière, si on n'arrive pas à mettre de la promotion dessus et faire un coup de marketing, on se retrouve avec des cartons de CD dans le bureau du label ou dans les chambres des artistes, et ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est vrai qu'un album aujourd'hui à concevoir, même pour un groupe, si moi je faisais un album avec Mr. N, avec mon label, on partirait sur un budget qui est quand même au minimum de 10 à 15 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on pense que voilà, 20% de rétribution des artistes n'est pas énorme. Mais
Et par clic de streaming, est-ce que les artistes commencent à être rémunérés via des plateformes comme Deezer, Spotify?
Le streaming, c'est un nouvel attaque en fait. C'est un nouveau coup sur la crise du disque, parce que Deezer a un peu créé un nouveau modèle d'utilisation de la musique. Parce que tout le monde a tout le temps et de partout, sauf que les rémunérations ne suivent pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les rémunérations de Deezer, c'est hyper compliqué à comprendre, parce qu'il y a 25 tarifs différents, et même nous, on a du mal à savoir pourquoi ça bouge tout le temps, parce qu'en fonction de l'abonnement, de la pub, machin et tout. Mais grosso modo, si on veut retenir une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, 1 million d'écoutes, ça équivaut à 1000 euros de royalties. 1 million, 1000 euros. Donc à partir de là, quand vous voyez un groupe où il y a 4 musiciens, quand il y a l'agrégateur qui a pris sa part, quand il y a le label qui a pris sa part, grosso modo, ils peuvent aller s'acheter un paquet de clopes ou un paquet de chewing-gum chacun. Ça va pas plus loin.
Alors justement, chez Mr. N, comment on fait pour se rémunérer? C'est essentiellement les concerts?
Oula, bah.
Est-ce qu'on se rémunère ?
Alors ouais, c'est déjà la question. Je sais pas si c'est le cas pour tous les groupes indépendants, mais nous, faut bien savoir qu'on touche pas un centime à titre personnel. On a créé une, enfin, j'ai pas créé d'ailleurs, c'est Clément qui avait créé une association dont il est le président. Donc si tu veux dire un mot dessus, peut-être.
Guitariste, Clément, ouais. Guitariste.
Bassiste.
Bassiste. J'ai mal pris mes notes alors.
Et du coup, bah en fait, on a une asso et du coup, toutes les rémunérations qu'on peut avoir avec Mister N lors des concerts, déjà ça part les trois quarts ou même les 80%, ça part sur les frais d'essence, péage, etc. Donc on est plus que sur du 20% qu'on remet dans l'asso parce qu'à un moment faut aussi aller en studio et se faire un CD. Sauf que nous, on compte pas 15 000 euros, on compte déjà 1 500 euros et on a du mal à le faire, concrètement. Du coup, nous, ça nous sert que à ça. Hein. L'argent qu'on gagne au concert, c'est pour pouvoir faire des stickers ou des machins ou un peu de promotion. Mais c'est très peu, quoi.
Puis aussi, là, parce qu'on a un tourneur depuis un petit moment, du coup, donc il y a aussi la marge du tourneur qui rentre en compte, même si du coup, elle est minime. Ça fait quand même un truc en plus. Donc ouais, le jour où on touchera de l'argent avec ce qu'on fait... On fait déjà pas mal de concerts, on en fait une trentaine à l'année, mais il faudrait des dates plus importantes, mieux payées, quoi.
On va vous écouter tout de suite Mister N avec Midnight Calling. Behind the light, well hidden in the dark, there's a world in black and white big shells. Crazy people keep an eye on your life. Love, mysterious smiles and tears. It has no sense.
Difficile, je pense, d'échapper à tout ça du fait qu'on a inventé les moyens de reproduire et de copier ce qui passe à la radio et ce qui passe à la télé.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'à long terme, ça peut créer des problèmes terribles? Par exemple, si les firmes producteurs de disques ne touchent plus de royalties, elles ne pourront plus vous en verser non plus. Par conséquent...
Oui, en ce qui me concerne, ça ne sera pas très grave parce que mon temps doit être, mes jours doivent être quand même un petit peu comptés. Mais ça peut être grave pour certains jeunes auteurs qui, sentant qu'ils ne pourront plus vivre de leur métier, parce que nous sommes quand même des artisans, nous, je parle des auteurs, compositeurs, en font un autre.
Finalement, Georges Brassens, sur ce document de l'INA qui date de 80, il parle un peu de vous, Mister N, les futurs artisans de la musique. Est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer dans ce projet ?
Bah, de toute façon, non, à la base, on monte un groupe de musique, on pense même pas sortir de CD, quoi, on fait ça vraiment comme ça. En l'occurrence, Mr. N, ça a été quand même lancé un peu plus, c'était un projet un peu plus avancé que la plupart des groupes qu'on a pu monter, parce que on est tous de groupes déjà qui ont fait un bout de route, quoi. Mais c'est vrai que non, bah, il vaut mieux pas penser à tout ça, parce que de toute façon, après, faut penser à trouver des dates, et la difficulté de jouer dans des cafés-concerts, et de jouer dans quel volume aussi, parce que, voilà, y a les voisins, etc. Donc non, il vaut mieux pas penser à ça et plutôt penser au moment qu'on passe sur les scènes et à s'amuser. Sinon, bah, on ferait pas grand-chose.
Alors, Sébastien Bichacle de la FEPAL, on va donc parler de cette plateforme qui est lancée mercredi dans 8 jours, mercredi 9 avril. Plateforme 1D-Pays de la Loire. Le but, c'est que les artistes et labels indépendants adhérents à la FEPAL, donc on disait hors micro tout de suite que la FEPAL, il y avait 18 labels, 15 groupes autoproduits et 2 éditeurs. Le but, c'est qu'ils puissent vendre sur cette plateforme leur production. Alors, ce serait sous quelle forme? Sans intermédiaire?
Oui, alors c'est ça, c'est un circuit court. C'est de la vente en physique ou en numérique. Le choix est au label est laissé libre à l'artiste ou au label adhérent. Donc voilà, il y en a qui peuvent vendre que en physique, d'autres que en numérique, les deux. Pour le numérique, on a deux formats, donc du MP3 en 320 et du FLAC. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un format qui est compressé mais non destructeur. Donc c'est grosso modo l'équivalent de fichier WAV. C'est juste que ça prend moins de place et moins de temps à télécharger. Il y a le choix de vendre à piste par piste ou uniquement en album, les deux. Et il y a également la possibilité d'offrir le digital pour l'achat du physique. Ça fait que l'internaute qui va acheter un album en CD pourra dans l'instant télécharger les fichiers en MP3 pour écouter directement sa référence.
C'est un concept qui existe déjà dans 4 autres régions, la région Rhône-Alpes, la région PACA, la région Midi-Pyrénées et la région Aquitaine. Ça fonctionne comment là-bas?
Alors en fait, il y a effectivement 4 plateformes régionales. Il y en a d'autres qui vont pas tarder à sortir. Et il y a surtout à la base une plateforme nationale qui s'appelle cd1d.com, qui est donc la plateforme de la fédération du même nom, qui regroupe 250 labels, peut-être un peu plus maintenant, et qui a mis cette plateforme en place, puis qui l'a déclinée en version régionale. Et toutes les plateformes sont interconnectées, ce qui permet de mutualiser une base de données. Et donc, les artistes qui sont sur une plateforme régionale se retrouvent dans le moteur de recherche global. Donc, les références sont retrouvées, que ce soit sur la plateforme nationale, sur une autre plateforme régionale. Donc, si par exemple Mr. N va faire un concert à Marseille ou à Lyon et que les spectateurs ont l'habitude d'aller sur un des Rhône-Alpes, eh ben, ils iront sur un des Rhône-Alpes, ils taperont Mr. N et en fait, ils seront directement redirigés vers un des Pays de la Loire pour acheter une ou plusieurs références de Mr. N.
Mr. N, je me tourne vers vous. Justement, ça représente quoi comme opportunité, cette plateforme, concrètement? Plus que ce que vient d'expliquer Sébastien Michel.
Pour nous, ce qui est bien, c'est que en termes de visibilité, ça nous donne un plus, c'est sûr. Et je pense que c'est un sérieux coup de pouce pour tout artiste indépendant, parce que, à travers ce que disait Sébastien, puisqu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on est indépendant, c'est un petit peu l'état d'esprit du do-it-yourself, quoi. C'est vraiment faites-le vous-même. Et là, du coup, l'apport de la FEPAL ou d'organismes similaires, ça permet d'avoir un coup de pouce, justement. Donc là, en termes de visibilité sur Internet, par exemple, de distribution, parce qu'en fait, c'est un peu un moyen de distribution. Surtout d'une façon que nous, on n'a pas accès en tant qu'artiste indépendant. Donc ça, je trouve ça vachement bien, notamment ce qui vient d'expliquer Sébastien par rapport au fait que même en jouant dans une autre région qui possède sa plateforme CD1D, on puisse retrouver le nom du groupe, même s'il est d'une autre région. Ça, c'est vraiment bien. C'est un moyen de communication en plus pour nous, en fait, un moyen de diffusion. Parce que nous, notre moyen de diffusion principal, on va dire, c'est les concerts, en fait. Les concerts, les clips, donc c'est pour ça qu'on essaye de tourner au maximum. Mais c'est vrai que sur la toile, sur Internet, des clips et puis des sites de support comme la FEPAL, CD1D, etc., ou même Bandcamp, où on met nos musiques, c'est des supports essentiels pour nous. Parce qu'Internet, ça permet d'accélérer, en tout cas, ça aide bien le développement du groupe, quoi.
Sébastien Bichacle, comment on fait pour être adhérent de la FEPAL?
Alors, il faut faire une demande d'adhésion, tout
simplement.
Il
y a des critères?
Oui, il y a des critères. Alors, pour les structures, en fait, on n'a pas de barrière, en fait, artistique. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour juger en disant, voilà, ce que techniquement c'est pas bien, si, enfin voilà, c'est pas de la chanson, ça va pas se vendre, c'est pas de la pop, vous disiez Thibaut, ça va pas se vendre, machin. Nous, on n'est pas là pour ça. On regarde vraiment des histoires d'éthique, des histoires de bah voilà, comme disait Thibaut, de comment le projet est fait, l'émotion qui est apportée à ce projet, l'intensité du travail. Donc pour les artistes, on essaye de voir si c'est un peu ancré. Mr. N, ils ont fait plusieurs EP. On sait que voilà, c'est dur pour eux d'en vivre. Mais par contre, artistiquement, il y a un projet qui est là, qui existe. Ils se battent pour le défendre. Et voilà, nous, après, il faut dire que leur musique soit bien ou pas bien. C'est pas notre problème qu'ils fassent du rock, qu'ils fassent de la musique électro-minimaliste uniquement dans le suraigu. C'est, je veux dire, il y a un public pour ça et il faut que ce public puisse rentrer en contact avec ce groupe-là.
Quand on vous entend, on se dit que cette crise, c'est peut-être une chance aussi, une manière de se réinventer. C'est un peu comme on pense à la presse et on pense aux journaux en ligne et la presse pourrait se dire c'est fini. Et en fait, il y a toujours des moyens de se réinventer. Pour l'industrie du disque, c'est la même chose. Ça peut être un moyen de repenser la question.
Oui, de toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, les ventes de disques ne peuvent pas permettre à des artistes de vivre. Il faut, voilà, faut essayer de faire un peu de disques, faut faire pas mal de tours, effectivement. Et de toute façon, le secteur est en mutation. On peut pas avoir des pensées arriéristes en disant non, mais si, le CD, c'est bien, on va en vendre, on va en vendre. Non, aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui aiment le support physique, le CD, le vinyle, comme je disais tout à l'heure, avec des objets qui sont beaux. Mais il y a d'autres choses, il y a du numérique et effectivement tout le monde a maintenant de la musique sur son téléphone, sur son baladeur MP3 ou n'importe, et il y a en plus le streaming, et on peut pas dire non, mais le streaming c'est pas bien, ça rémunère pas, on peut pas s'en servir. Voilà, donc nous on essaye de réinventer des choses. Donc le streaming, comme le voit actuellement Deezer et Spotify, ça nous convient pas. Donc, on essaye de réinventer des choses. Donc, là, pour l'instant, il y a la plateforme donc, qui va sortir la semaine prochaine, qui est une première étape. La deuxième étape, c'est d'avoir une plateforme de streaming équitable, avec une rémunération beaucoup plus juste des artistes, enfin des créateurs de contenu, parce qu'on ira même plus loin, on ira sur du jeu vidéo, on ira sur du film. Mais voilà, c'est le même vecteur, c'est juste que on est des artisans, hein, que ce soit des groupes ou des labels, les labels indépendants, on est des artisans du disque. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à se voiler la face. Donc, on essaye de réfléchir différemment les choses parce qu'on peut pas lutter dans d'autres, sur d'autres secteurs. Bon, il faut savoir que dans la musique, il y a quand même un fait important, c'est qu'il y a un acteur qui détient 53% du marché mondial. Cet acteur, c'est Universal. À partir de là, quand tu as 53% du marché mondial, je veux dire, les négociations, c'est vite vu, hein. C'est tes conditions ou celui d'en face, il a rien. Donc à partir de là, ben voilà, t'as des différences qui se font, t'as des distensions qui se créent. Et derrière, ben les labels indépendants, ils ont plus que les petites miettes à se partager. Et voilà, nous, on trouve que c'est pas normal et qu'il y a mieux à faire, qu'il y a une autre diversité à mettre en avant et qu'il y a une autre manière de rémunérer les créateurs de contenu, de tout ce contenu, toute cette diversité culturelle.
La plateforme Indé Pays de la Loire, ça se lance donc mercredi prochain, mercredi 9 avril, au Joker's Pub à 18h30 avec un concert de Mr. N. Et on pourra aller faire un tour sur le www.indé-paysdelaloire.com. Merci Mr. N, merci Sébastien Michel d'avoir été dans le sous-marin. Tout de suite, on marque une pause musicale avec Stanley Briggs at the Wave Picture, Orange Juice. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. It's raining and the wind is ruthless. I'm old and cold and tired and useless and toothless, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. The radio sucks balls. The radio
music they're playing at all, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. Doesn't have a meaning, anything goes. You might as well be dreaming, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. With a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, between an orange juice.
Et dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, il est l'heure de retrouver Quentin. On est en plein dedans, toute la planète s'y intéresse. Les conséquences des élections municipales de dimanche.
Suite à ces élections municipales, le gouvernement est sorti vainqueur des urnes. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Oui, les Turcs ont donné pas moins de 45% de leur voix à l'AKP, le parti au pouvoir. Le scrutin, davantage qu'en France même, faisait figure de référendum sur la politique nationale. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est largement renforcé pour continuer sur sa lancée dans les mois à venir.
Quelle est cette lancée ?
Les premiers éléments à me venir en tête sont les affaires de corruption, des millions de manifestants dans la rue, l'oubli des promesses de laïcité faites il y a quelques années ou encore une dérive autoritaire. Revenons sur l'année écoulée en Turquie. En juin dernier, la gronde populaire s'est amplifiée. Au plus fort des événements, on a dénombré plusieurs millions de mécontents à travers tout le pays, suffisamment pour que le mouvement soit comparé à mai 68. À la base, il y avait quelques nostalgiques, ennemis d'un plan d'urbanisme à Istanbul. Et puis c'est l'histoire habituelle. Des gens occupent une place, sont écrasés, et s'attirent la sympathie de quelques dizaines d'autres, puis de plusieurs centaines, puis de plusieurs... Enfin, vous connaissez la suite. On réclame le départ du gouvernement, on critique des idées rétrogrades sur l'avortement ou sur les droits de la communauté LGBT, on dénonce un brin de mégalomanie ou trop de répression. Ensuite, l'ampleur du mouvement s'est réduite progressivement, jusqu'à décembre dernier en tout cas, où un procureur jouant les super-héros a inculpé des dizaines de personnalités au pouvoir, dont les fils de certains ministres, et des membres de cabinets ministériels. Il leur reproche, preuve à l'appui, de mouiller dans des affaires de fraude immobilière et d'avoir truqué des appels d'offres publics pour privilégier les copains, en s'en mettant bien sûr plein les fouilles au passage. Le Premier ministre Erdogan lui-même est indirectement dans le viseur de la justice.
Des affaires d'État, que c'est original. Quelle posture a-t-il adoptée ? Est-ce qu'il a nié ?
Non, trop simple, trop gentil, trop vu. Erdogan a préféré limoger Muammar Akar, le procureur en charge des dossiers, ainsi que plusieurs centaines d'officiers de police participant à l'enquête, une purge dans les règles de l'art. Dans les villes, la contestation est repartie de plus belle. La semaine dernière, le Premier ministre turc a choisi de bloquer l'accès à Twitter, puis à YouTube. Ce qui gênait ? Il y circulait des bandes audio de lui-même, de son fils ou de sa fille, l'impliquant nettement dans les affaires de corruption. En censurant ses sites internet, Erdogan rentre dans un club assez fermé. La Turquie rejoint ainsi, notamment, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. Ne nous voilons pas la face. Sur place, l'accès à Twitter et YouTube est toujours possible. Les opérations informatiques pour y parvenir sont simples. La méthode peut même être obtenue par SMS via un numéro mis en place par Twitter.
Alors pourquoi risquer d'être taxé une nouvelle fois de gouvernement autoritaire ?
La condamnation de Twitter est en fait la condamnation des opposants laïcs, jeunes et de gauche. Le reste de la population est relativement peu affecté. En réponse à la censure, le seul risque est de voir à nouveau les opposants habituels descendre dans la rue, ce qui n'est pas un risque en fait, puisque les opposants dans la rue, c'est la meilleure façon de souder la majorité et ses partisans, agacés par des gesticulateurs gênants et égoïstes.
Comment se fait-il qu'Erdogan a été publicité avant-hier ?
Il s'est appuyé sur la majorité silencieuse. Erdogan a joué la carte de la victime et a rendu coup pour coup à toutes les attaques reçues. Et le résultat de dimanche lui a donné raison. Plusieurs millions de contestataires, ça ne devrait pas passer inaperçu dans les élections. Et puis 10% de chômage, 8% d'inflation, ça aurait pu être difficile à avaler. Qu'à cela ne tienne, tout le monde, sauf quelques millions de Turcs, considère que le parti AKP est un gage de stabilité, un gage de développement économique. Le parti est au pouvoir depuis 12 ans. Tant que les investisseurs étrangers gardent confiance en la Turquie, cette dernière voit globalement sa croissance atteindre des sommets. 9% en 2011, par exemple, c'est assez pour convaincre les plus récalcitrants. Également assez pour refléter une relative amélioration du niveau de vie national, pour les classes moyennes comme pour les plus pauvres. Du pain et des jeux, cela suffirait-il ? Les présidentielles auront lieu en août de cette année, les législatives en 2015. Erdogan, qui personnifie l'AKP, vient de gagner la première manche par forfait. Attendons de voir si les Turcs décident d'engager la bataille dans les deux prochaines reprises.
Rendez-vous en août donc. Merci Quentin, chaque mardi tu nous permets de jeter un œil hors de la coque du sous-marin. Si vous lisez le courrier de l'Ouest, vous avez sans doute remarqué que les articles n'étaient plus signés depuis 8 jours. Plus de noms en bas des papiers, chose rare dans un canard. Pour comprendre pourquoi cette grève des signatures a lieu, nous avons téléphoné à Emmanuel Poupard, il est journaliste au courrier de l'Ouest et délégué syndical du SNJ, le syndicat national des journalistes. Bonjour Emmanuel Poupard.
Bonjour.
Alors depuis 8 jours, les articles ne sont plus signés dans le courrier. Il y a un mois, les journalistes avaient déposé une motion de défiance. C'est quoi le problème au courrier de l'Ouest ?
En ce moment, au courrier de l'Ouest, il y a différents problèmes. Nous dénonçons par la motion de défiance, nous dénonçons la dérive de la ligne éditoriale vers de plus en plus de sensationnalisme. Donc, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de notre cœur de métier, qui est de l'information de proximité, aujourd'hui au Corée de l'Ouest.
Ça se concrétise comment, cette ligne éditoriale vers le sensationnalisme ?
C'est-à-dire vers le tout fait divers, vers le tout justice, avec des sujets qui sont globalement tirés par les cheveux et qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. C'est-à-dire qu'on monte en mayonnaise des sujets. Voilà.
Et ça, vous n'avez pas votre mot à dire en tant que journaliste ?
On a notre mot à dire chaque jour en réunion de rédaction, mais la direction tient cette ligne de ligne éditoriale parce que, dans un mot récent, le président directeur général souhaite inviter les journalistes à développer l'information qui crée de l'émotion. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, il faudra qu'il nous explique. Mais voilà, c'est assez curieux. Nous, notre métier, c'est de relayer l'information. C'est notre mission de journaliste, notre devoir d'information envers le public. Voilà, on n'est pas là pour développer l'information qui crée de l'émotion. On fait notre métier, point barre.
Il y a un autre désaccord qui a été exprimé dans cette motion de défiance, ou en tout cas dans un communiqué du SNJ, qui expliquait que les orientations actuelles en termes de moyens engagés et de management étaient également critiquées par les journalistes. Ça veut dire quoi ?
Alors déjà sur les moyens engagés, puisque malgré un chiffre d'affaires autour de 45 millions d'euros au Corée de l'Ouest sur ces 8 dernières années, la direction souhaite supprimer des postes de journalistes. Donc on estime que durant les 3-5 ans, ça serait 15 postes de journalistes qui seraient non remplacés suite à des départs à la retraite. Donc c'est-à-dire qu'il faudra faire le même nombre de la même mission avec moins de monde. Donc déjà qu'aujourd'hui on travaille à flux tendu, c'est très compliqué. Et voilà, donc ça va vraiment compliquer la tâche des journalistes, de la qualité de l'information et des conditions de travail des journalistes. Et concernant le management, c'est-à-dire que sur les relations sociales dans l'entreprise et les relations humaines, elles sont assez bousculées. On parle d'une question de méthode actuellement sur le gouvernement Hérault qui a été accusé d'une question de méthode pour résoudre la crise en France. Je crois que c'est un peu le même problème ici. Question de méthode, voilà. Avec des relations sociales apaisées, c'est ce qu'on demande, avec un dialogue social constructif. Mais aujourd'hui, on a des interlocuteurs, une direction qui n'entend pas, qui qui entend tracer sa ligne et qui n'entend pas, voilà, qui passe en force, tout, qui entend muter les gens de manière forcée. Et c'est pas comme ça qu'on envisage les relations sociales dans l'entreprise, surtout dans le journalisme où le paritarisme est un pilier de notre profession.
Ça fait combien de temps que ça dure en interne cette ambiance au Courrier de l'Ouest, parce que les lecteurs s'en rendent compte seulement depuis cette grève des signatures?
Oui. C'est-à-dire que le premier coup a été porté finalement en 2011 lors de la fermeture de la rédaction du Courrier de l'Ouest sur la place du Ralliement, c'est-à-dire qu'on nous enlève notre relation de proximité avec la population, et donc la rédaction d'Angers fermant, les journalistes sont rapatriés au siège à 3 km du centre-ville, et dans le même temps la rédaction en chef nous demande de faire sentir aux lecteurs la ville, sentir humer la ville, écouter les bruits de la ville. Alors c'est très compliqué puisque on n'y est plus. Donc voilà, on nous demande de faire des choses qui sont finalement assez incohérentes. Et ça dure depuis ce moment-là. C'est assez latent et il y a beaucoup de décisions qui ont été prises depuis ce moment-là qui exacerbent vraiment la grogne et la colère des journalistes.
Et c'est quoi le symbole de la grève des signatures? Parce qu'on peut se dire qu'après tout c'est assez anecdotique. Ça veut dire quoi pour vous?
Pour nous, c'est pas anecdotique. C'est une manière de dire qu'on affiche notre désaccord sur les orientations donc de l'entreprise et sur le fait qu'on se reconnaît plus dans le journal et la direction que l'entreprise veut nous faire prendre. Voilà, sur les cités, l'information de proximité dont on s'éloigne tous les jours de plus en plus, sur les moyens engagés qui sont moins présents encore, qu'on nous annonce des suppressions de postes chez les journalistes, et puis les relations sociales. Donc tout ça, c'est un ras-le-bol. Alors c'est vrai que ça peut faire sourire, une grève limitée des non-signatures, des signatures de journalistes, mais voilà, on affiche vraiment notre mécontentement, puisqu'on ne souhaite...
Et quelle
On se reconnaît vraiment plus dans la direction que l'entreprise veut nous faire prendre.
Et quelle suite est-ce que vous allez donner à ce mouvement?
Alors la suite que nous allons donner, nous allons réunir les journalistes en assemblée générale cette semaine, et la communauté des journalistes décidera des suites du mouvement à donner.
Merci Emmanuel Poupart d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Je vous en prie, à bientôt.
Emmanuel Poupart, journaliste au Courrier de l'Ouest et délégué syndical du SNJ, le syndicat national des journalistes, en ligne avec Radio Campus Angers. Tout de suite dans le sous-marin sur Radio Campus, on écoute Blitz the Ambassador avec Sheun Kuti, Make You No Forget.
Corruption, still election, brutality, remember the nugget option, that's why, you don't forget where you come from, you don't forget where you come from, Charlie, make you sit, make you chop some, it's been a minute since me that you reason where we laugh some, you the guy that time will be Kirisana, the chat scale is pillar lows and the pampanas, watching us suffer dies and we thought we would never grow up, by the fireside, mama don't know what's so hot, but now it was hotter than Uncle George Lane's, che-che-kule, che-che-kufisa, drove us insane, Charlie, you the guy Italian, I did in the goal. With Roja Mel, I score dancing with a flagpole. Better get, you the guy Senegal 92. Ghana than Ivory Coast, they see the keeper used to you. Oh, Charlie, the cell phones from back in the day. When we tell me that I'm once in America, I say, well, some things change and some might not. But when they reminisce over you, my God.
What? I said.
So the hunger, the knock, to hitting the cups whether they like it or not. That's why you don't forget where you come from. You don't forget where you come from. Charlie, look how we all can grow. Secondary school time, cats don't be small. Me, I go more down where you learn to survive. Gary and Shinto was the ish that kept us all alive. But where'd you decline the nightclubs for Osu? You shot a fine goal where they bounce you. So you go change your clothes, come back, they let you on. Just to realize you should have stayed your ass at home. Cause the London boys, they here, the Yankee guys, they there. They like the bees to mingle, and you were all alone, Charlie. These are the days who a fam never missed us. From Bouchier to Woodmine to Super Soul Sister. But I gotta say, looking back in the day, nobody should cry quite like Acapulco Bay. Cause some things change and some might not. But when they reminisce over you, my God.
What? I said.
What?
I said.
Police
corruption, still election, brutality. Remember the nugget option. That's why you don't forget where you come from. You don't forget where you come from.
On est mardi et dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on retrouve la chronique politique de Pierre-Antoine. Les élections municipales de dimanche sont, à l'instar du premier tour, un coup dur pour le gouvernement. Les enseignements sont les mêmes, une politique socialiste peu claire, sanctionnée par une partie des Français, un rejet du gouvernement et une victoire pour la droite et aussi pour l'extrême droite. Hier, François Hollande a choisi de changer de Premier ministre et de nommer...
Manuel Valls, c'était si urgent que ça de changer de gouvernement. Le président de la République signe peut-être aujourd'hui une des erreurs les plus importantes du début de son quinquennat. Sans doute pressé de choisir un nouveau Premier ministre par l'aile gauche du parti, qu'il n'écoute pas souvent, et par les médias, qu'il écoute souvent à tort, François Hollande s'est précipité et risque maintenant de trébucher. Manuel Valls au gouvernement, c'est un peu la solution de facilité. Nommer le ministre préféré des Français, mais cette décision va bien plus loin que ça. En choisissant l'ancien ministre de l'Intérieur, le président français fait également le choix d'une politique et confirme le virage social-libéral entamé depuis plusieurs mois. La preuve, c'est bien la première fois que l'UMP félicite, à demi-mot certes, une décision de François Hollande, et c'est François Fillon qui s'en est fait le porte-parole, l'ancien Premier ministre qui, malgré de cuisants échecs en 2008, avait réussi à sauver sa place pendant les 5 ans du mandat de Sarkozy, souhaite bonne chance à Manuel Valls. J'espère simplement qu'il fera un peu moins de communication et qu'il aura un peu plus de résultats qu'au ministère de l'Intérieur, ajoute-t-il. Autre soutien étonnant, celui d'Hervé Morin. Le député UDI tacte au passage l'ancien ministre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a pourtant, pendant 2 ans, tenu le cap. Il a été joint hier par France Info.
Ce que va apporter Manuel Valls, je l'espère, c'est ce qui a beaucoup manqué, c'est-à-dire d'autorité à la tête du gouvernement. Alors ça ne réglera pas la question d'autorité à la tête de l'État, mais au moins à la tête du gouvernement. On a eu trop d'incohérences, de cacophonies, trop d'absence de professionnalisme. Et j'espère qu'avec Manuel Valls, au moins, il y aura un chef de gouvernement.
Et quelles sont les réactions à gauche ?
La plupart des grandes figures du Parti Socialiste soutiennent, ou du moins font semblant de soutenir le choix du président de la République. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, estime que ce qui importe n'est pas le casting du gouvernement, mais plutôt le scénario. Un discours assez semblable à celui d'Harlem Désir. Le premier secrétaire du PS salue de son côté le choix du chef de l'État de confier à Manuel Valls, républicain intransigeant, homme d'engagement et d'action au service des valeurs de la gauche, la tâche de mener cette nouvelle étape. Mais cette annonce ne fait pas que des heureux, surtout à la gauche du PS et à l'extrême gauche. Emmanuel Morel, chef de file de la gauche du PS, trouve le choix de François Hollande assez étonnant et d'estimer que les élections municipales ont été le révélateur d'un indéniable besoin de gauche. Autre grand déçu, les écologistes. Les alliés bientôt futurs ex-alliés du PS ne semblent pas en phase avec Manuel Valls. Les deux ministres d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot et Pascal Canfin, ont décidé de quitter le gouvernement, comme ce qu'avait annoncé la semaine dernière la ministre du Logement. Et quand les rats quittent le navire, ce n'est jamais vraiment bon signe. Jean-Luc Mélenchon est peut-être celui qui pourrait le plus se frotter les mains. Avec un gouvernement qui se rapproche de la droite, le leader du Front de Gauche pourrait bien incarner une vraie alternative à gauche. Il appelle d'ailleurs à une grande manifestation le 12 avril. Je suis très triste pour mon pays de la décision qui vient d'être prise. Le chef de l'État est l'unique responsable de la défaite de la gauche. Son message de ce soir confirme son alliance préférentielle avec le MEDEF. Des mots durs, mais qui ne réveilleront pas le chef de l'État, sans doute convaincu de son choix. François Hollande semble bel et bien perdu, sonné par le Trafalgar des municipales, comme aime à le qualifier le Figaro.
La question est désormais de savoir qui accompagnera Manuel Valls dans ce nouveau gouvernement.
Certains ministres semblent déjà être sur la sellette. Yamina Benguigui, soupçonnée d'avoir omis de déclarer des parts dans une entreprise en Belgique, pourrait bien être parmi les premiers à partir, et d'autres suivront, puisque François Hollande plaide pour une équipe réduite, bien moins étoffée que les 38 ministres actuels, et il le disait hier lors de son allocution télévisée.
Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire ? Un gouvernement de combat. Je lui assigne 3 objectifs. D'abord, redonner de la force à notre économie. La seconde mission que je lui assigne, c'est la justice sociale. Au pacte de responsabilité doit correspondre un pacte de solidarité. Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la croissance doit être prise en compte dans le respect de nos engagements.
Et pour mettre en place ces 3 orientations, le président de la République devrait s'entourer de pontes du PS qui pourraient entrer au gouvernement. Ségolène Royal, Martine Aubry ou encore Claude Bartolone pourraient entendre leur nom cité lors de la prochaine déclaration de Manuel Valls. Enfin, selon des informations du Parisien, certaines figures charismatiques du gouvernement pourraient y rester. Citons Laurent Fabius, Arnaud Montebourg ou encore Najat Vallaud-Belkacem. Et pour satisfaire la gauche, Benoît Hamon, ancien président des Jeunes Socialistes, devrait sauver sa place, d'autant qu'il a opéré depuis quelques mois un certain rapprochement avec le nouveau Premier ministre. Manuel Valls qui ne devrait pas trop s'installer. Si François Hollande décide de changer de gouvernement à chaque défaite électorale, certains pourraient bien avoir à reprendre leurs cartons avant de les avoir ouverts le 25 mai prochain.
Pour les élections européennes. Merci Pierre-Antoine et à la semaine prochaine avec un nouveau gouvernement. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine. La Nuit des Rois est jouée dans l'Amphibazin à la Cato à 20h dans le cadre du festival Les Trois Coups. Aux 400 coups, soirée Exitos avant-première dans le cadre de la semaine de cinéma en langue espagnole. Alors qu'il est, vous avez raté Pelo Malo de Mariana Rondon, mais vous pouvez toujours voir Hypothesis et Hernan Goldfried à 22h. Shakira, Beyoncé et J-Lo sont en live au Shabada dès 20h45, ce n'est pas encore complet, il va falloir vous presser. À 21h, il y aura un Buff Blues au Terroir Coco et une session irlandaise au Welsh puisqu'on est mardi. Demain mercredi, scène musicale ouverte à tous à l'espace culturel de l'université à 19h. After Work by Elena au Jacaré à la même heure. Le festival des Trois Coups continue avec 6 personnages en quête d'auteur à 20h Amphibazin à la Cato. Au Donald's Pub, soirée folk à partir de 20h avec 3 lives, PG Bond, Hélène Cox et Throw Me Off The Bridge. Et enfin, scène ouverte acoustique à 21h33 au T-Rock Coco. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez nous réécouter demain sur le 103FM dès 13h ou en podcast sur notre site internet le www.radiocampusangers.com. Tout de suite à 20h, vous retrouvez une rediff de Turbulence, l'émission des groupes locaux de jeudi dernier, avec les Burn School. On vous laisse avec la bulle sonore. Hier, dans DeLorean, l'émission Histoire de Radio Campus Angers, on a parlé complot. L'occasion de reparler de la bataille des Ponce, qui a eu lieu le 7 août 1620 entre Marie de Médicis, avide de pouvoir, et son fils Louis XIII, le roi d'alors. L'intégralité de ce récit est bien sûr à retrouver en podcast sur notre site internet. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Il vous reste encore quelques heures pour faire des blagues. On se retrouve jeudi à 19h. Allez, bisous!
Le 7 août, les troupes royales se réunissent dans la plaine de Trélazé. L'armée de la reine-mère fait face entre la Loire et la Maine, entre les Ponce et Angers. Et la bataille commence. L'armée de Marie de Médicis est plus nombreuse que celle du roi. Les troupes royales prennent donc leur courage à deux mains avant de s'élancer dans la mêlée. Mais après seulement 3 charges, aux surprises, le duc de Ré, allié à la reine, bat en retraite avec 1500 de ses hommes. Voyant cela, le duc de Vendôme prend la fuite à son tour et se réfugie à Angers, auprès de la cour de Marie de Médicis, laissant ses troupes en pleine pagaille. On comprend mieux du coup le nom de drôlerie des Ponce. La victoire pour le roi est alors facile, et le 10 août, Louis XIII, pour éviter que sa mère tente à nouveau de comploter contre lui, décide, sous l'influence de Richelieu, il décide de... Qu'est-ce que vous pensez qu'il va décider de faire ?
L'exil, oui, l'enferme.
Oui, ça aurait été logique hein, de l'exiler et de l'enfermer. Bah non, parce que peut-être que finalement il aimait bien sa mère, puisqu'il décide de se réconcilier avec elle et accepte son retour à la cour de France. Cette paix ne règle pas tout cependant. Elle n'est qu'une trêve dans cette lutte du pouvoir, dans ces magouilles politiques, puisque 10 ans plus tard, en novembre 1630, Louis XIII élimine à nouveau ses adversaires politiques et contraint encore Marie de Médicis à l'exil. C'est ce qu'on appelle la journée des dupes.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.